On est aujourd'hui le mardi 30 Tishrei, on est le 13 octobre et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Daniel Ben Esther. Et j'ai mis un petit papier mais je ne sais pas où il est. Et de la Refoua Shelema de Tziona Bat Rumia.
Naor Ben Ruth, c'est le petit jeune de 17 ans.
Et pour la Refoua Shelema de Naor Ben Ruth. Et
Adèle Benita.
Adèle Benita. En tous les cas, donc on reprend.
Et notre cher ami, monsieur 14 ans aussi.
Une bonne santé.
Non, il est malade. Et donc, on reprend après une longue interruption, on reprend notre cours de Talmud. On attaque la dernière Mishnah de ce chapitre. Et après, quand on aura terminé ce chapitre, on passera à un nouveau texte, Bezrat Hashem. On verra, je ne l'ai pas encore choisi. En tous les cas, Baruch Haba. Et la Mishnah dit donc, Amavir Chavit Mimakom Le Makom. C'est un nouveau texte aujourd'hui. On parle donc d'un employé dont le travail, vous savez très bien, le Talmud se sert d'exemple très terre à terre, très banal. Et bien sûr, tout ça, c'est uniquement des images. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre ce qui se passe derrière au niveau de la construction de l'homme et du monde. Mais en tous les cas, pour l'instant, on reste dans l'image. Amavir Chavit Makom Le Makom, quelqu'un donc dont le travail était de transporter des tonneaux, des objets, peu importe, d'un endroit à un autre. Donc, moi, je fabrique des objets et j'ai des ouvriers qui transportent les objets, qui vont les livrer, voilà, des livreurs, cherchez le mot, des livreurs qui le transportent aux gens qui les ont achetés. On fait ce qu'on appelle des michlourim, on fait de la livraison à domicile. Donc, parmi ceux qui travaillent pour moi, il y a les livreurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Veshavra. Et pendant le transport, la marchandise, une partie de la marchandise, peu importe, s'est cassée pendant qu'elle était confiée donc au livreur, qui est mon employé. Alors, on dit Ben Shomer Chinam, Ben Shomer Sachar, que ce soit quelqu'un qui transportait bénévolement, ou que ce soit, ce qui est beaucoup plus évident, c'est ce par quoi j'ai commencé à expliquer, quelqu'un qui transportait payé, c'était son salaire. Malgré tout, l'ouvrier, le transporteur, ne sera pas tenu de rembourser. Par contre, ce qu'il devra faire, Yeshava, il devra jurer. Bon, jurer, ça fait très préhistorique, parce que ça fait effectivement, même dans le cadre de notre loi, ça fait de très 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 nombreux siècles, voire plus de presque 1000 ans ou plus, que cette loi-là a été, on pourrait dire, a été
abrogée,
annulée par nos maîtres, parce que effectivement, nos maîtres se sont rendus compte que de toute façon, on ne pouvait plus faire confiance à quelqu'un qui jurait, parce que l'homme n'avait plus le sens des responsabilités. Il n'y a que chez les idiots qu'on apporte une Bible et qu'on la fait jurer. Je dis toute la vérité, rien que la vérité est ma sœur. Heureusement, les maîtres d'Israël ont quelque chose derrière cet endroit-là et se sont rendus compte depuis plus de 1000 ans déjà que c'était stupide de dire à quelqu'un de jurer parce qu'il n'avait strictement rien à faire. Mais en tous les cas, à l'époque où la Mishnah a été écrite, apparemment, la société juive était encore à un niveau où quelqu'un dit « je suis prêt à jurer », il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance, que n'oublions pas que jurer, comme on le fait aujourd'hui dans les tribunaux des idiots, on apporte une Bible, nous on sortait un Sefer Torah. Et bon, mettre sa main sur un Sefer Torah et dire « je jure devant Hachem » et mentir, c'était quand même quelque chose qui, en tous les cas, il y a 2000 ans, était considéré comme le crime absolu sur le plan moral. Et donc, quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas cette histoire de jurer ou pas, parce que de toute façon, nous, on ne jure plus depuis longtemps. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, on demande simplement à la personne de dire, laissez tomber le côté du serment, de dire qu'il n'a pas été négligent, et s'il est prêt à jurer qu'il n'a pas été négligent, dans ce cas-là, on ne peut pas le tenir responsable, et donc qui va payer l'ardoise? Le patron. C'est lui qui devra refournir à son client la marchandise, et donc, et l'ouvrier, lui ne pourra pas être tenu comme responsable. Le patron ne peut pas lui dire, écoute, la marchandise s'est cassée chez toi, c'est ta responsabilité, et donc je ne veux rien savoir, tu rembourses. Non, il jure, je n'ai pas été négligent, d'accord ? Je n'ai pas fait exprès, et donc il est patour. On continue, pas de questions pour l'instant, car on n'a même pas commencé l'ombre du commencement. Rabbi Eliezer Omer, Zeveze Yeshava.
Rabbi Yehuda Omer, Shomer Chinam Mishava.
Non, c'est dans la Gemara, moi je suis dans la...
Non,
je suis dans la Mishnah, moi. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Zeveze Yeshava, effectivement, les deux ont la possibilité de jurer et donc de ne pas payer. Utmiya Ani, mais je suis quand même étonné, c'est une formulation très très rare et très étonnante dans une Mishnah ou dans le Talmud en général, qu'un maître dise, la halakha, effectivement, elle est comme ce qui vient d'être dit. Mais en tout cas, ça m'étonne énormément. Je suis choqué de cette loi-là. C'est intéressant. Chez nous, on a le droit de dire qu'on est choqué par une loi. Vive les Juifs. Et donc, mais je suis quand même choqué. Comment se fait-il qu'on a autorisé les deux à jurer, c'est-à-dire à s'en quitter finalement, sans fils allemand.
La Mishnah ne précise pas quel est, sur quoi il jure.
Non, ils jurent qu'ils n'ont pas commis de négligence. Parce que s'ils ont commis une négligence, je l'ai dit, s'ils ont commis une négligence, bien sûr qu'ils doivent payer. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que, encore une fois, laissons tomber le Shomer Chinam pour l'instant. Le Shomer Chinam, c'est celui qui rend service. Lui, d'ailleurs, on peut comprendre que, déjà, il rend service, il ne demande pas qu'on le paye, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse rembourser. Mais rappelons-nous, le Shomer Sachar, on a toujours vu maintenant depuis au moins 2 ou 3 mois qu'on est sur ces sujets-là, on a toujours vu que quelqu'un qui est payé pour réaliser quelque chose, lorsque je lui confie mes objets, ça l'amène à un niveau de responsabilité extrêmement élevé. Donc ici, même si le Shomer Sachar dit « j'ai pas été négligent », le patron apparemment est en droit de lui dire, et ça va être le sujet essentiel de la Gemara, d'accord, tu n'as pas été négligent, mais c'est pas mon problème, tu n'as pas été négligent. Quoi qu'il en soit, je t'ai payé pour faire ce travail, la marchandise n'a pas été livrée, je me fiche royalement que tu n'as pas été négligent. C'est ta responsabilité qui est engagée, pas la mienne. À partir du moment où tu as pris ma marchandise et que je te paye pour ça, il n'y a pas d'excuse. D'accord ? Sauf si éventuellement quelqu'un est venu et rentré dans le camion et a cassé lui-même la marchandise, mais on ne parle pas d'un cas pareil. D'accord ? De quelqu'un on parle, on peut imaginer que la marchandise est dans le camion et tout d'un coup il y a une personne inconsciente qui a voulu traverser la route pas au bon endroit. Le camionneur a été obligé de freiner de toutes ses forces. La marchandise bien sûr est tombée à l'intérieur du camion et une partie des cruches se sont cassées. C'est ça, j'ai pas fait exprès. Mais un Shomer Chinam, c'est évident que lui ne devra pas rembourser. Mais un Shomer Sachar, c'est pas mon problème. C'est les risques du métier. Tu reçois un salaire pour ça. Donc normalement, il devrait payer. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, effectivement, regardez ce que dit Rashi. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Eliezer ? Kelomar, un peu plus haut, dans Rashi, dans la colonne d'intérieur. Kelomar, c'est-à-dire, Af ani shamati merabotai ke Rabbi Meir. Effectivement, Rabbi Eliezer vient confirmer le premier avis qui est l'avis de Rabbi Meir. Effectivement, mes maîtres à moi m'ont enseigné la même chose que ce que Rabbi Meir enseigne au début de la Mishnah. Aval tmiya ani, mais je reste quand même choqué par cette loi. Alze, ve alze, et je suis quand même choqué sur le fait que les deux peuvent s'en sortir si facilement. Eyar niftarim beshvua. De quel droit peuvent-ils s'en sortir avec un simple serment? Alors on verra dans la Gemara, est-ce qu'il est étonné seulement sur le Shomer Sachar ou bien même sur le Shomer Chinam? Pour l'instant, moi je n'ai parlé que du Shomer Sachar, parce que c'est ce qui est le plus facile. Bien, s'il est étonné sur un, c'est forcément au moins sur lui. Mais on verra que dans la Gemara, on suggère que même sur le Shomer Chinam, ce n'est pas évident qu'il ne soit pas tout. En tous les cas, donc, ça, c'est ce que dit la Mishnah. On n'a donc aucune information pour commencer à parler. On rentre directement dans la Gemara. Tanou Rabbanan. Donc les maîtres vont maintenant revenir sur cet enseignement-là. Amavir chavit le chavero, quelqu'un qui transporte donc de la marchandise pour une autre personne, Mimakom le makom, veshavra, c'est le même cas, c'est un autre enseignement qui commence, qui débute de la même manière que notre Mishnah. Veshavra et que ça s'est cassé. Ben shomer chinam, ben shomer sacha, yeshava, divrei Rabbi Meir. La seule différence entre ce texte-là et celui qu'on vient de lire, c'est que dans le texte précédent, on ne nous dit pas qui était la vie qui pensait qu'il peut s'en sortir uniquement en jurant. Maintenant, on nous précise que quoi ? Que c'est Rabbi Meir qui pense ça. C'est d'autant plus étonnant qu'on sait que Rabbi Meir a une tradition dans tout le chas d'être très mahmir, très din, comme Shammai. Et donc là, apparemment, son avis est très coulant. Rabbi Yehuda Omer, et là, c'est ça ce qui est très étonnant, c'est que Rabbi Yehuda, qui généralement, par rapport à Rabbi Meir, est lui celui qui est coulant, est ici celui qui est plus sévère. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda ? Shomer Chinam Yeshava, il dit à Rabbi Meir, je suis d'accord avec toi que le Shomer Chinam rend service, donc on ne peut pas le responsabiliser exagérément, mais no se sacha, mais celui qui fait ça pour de l'argent, Yeshalem. Même si effectivement il peut apporter la preuve comme quoi il n'était pas responsable directement, c'est les risques de son métier, donc il paye. Donc on a ici un problème, mes amis, c'est que on peut très bien dire que comme on le sait, l'exception confirme la règle, on peut très bien dire qu'effectivement, bien que d'une manière générale Rabbi Meir est plus sévère que Rabbi Yehuda, ici dans ce cas-là, non, c'est le contraire, mais malgré tout il nous resterait une question, et pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup, dans un cas, alors que Rabbi Yehuda a une attitude à être moins sévère, ici il est plus sévère, Rabbi Meir, qui dans tout le chasse a une attitude d'être toujours très sévère, très exigeant, très demandant, ici il a une attitude apparemment très laxiste, d'accord ? Ah bon, mais j'ai pas fait exprès, et l'autre il se retrouve avec une ardoise, il doit refournir la marchandise, et donc c'est quand même un grand risque pour un patron. Vous imaginez un patron qui envoie des camions entiers sur la route, et qui va se retrouver après avec sa marchandise qui est partie en fumée et personne ne va le rembourser. Bon, ne parlez pas d'assurance. Mais évidemment qu'il peut faire une assurance, mais quoi qu'il en soit, on ne parle pas de cette façon. Une assurance, il faut savoir, c'est très souvent la réponse facile des assurances qui existait à l'époque du Talmud, mais surtout l'assurance, c'est toujours perdant. Pourquoi ? Parce que quand tu as obligé une fois l'assurance à payer, après ta cotisation, elle augmente. Et à long terme, de toute façon, tu vas le payer 10 fois ton dégât. Donc avec une assurance, on est toujours perdant. Donc, la réponse, eh ben, il a essayé l'assurance, mais l'assurance, de toute façon.
Parce qu'il a prouvé que c'est une rachamou.
Comment ?
Il a prouvé qu'il n'était pas capable d'assumer sa responsabilité. Donc, on va te taxer plus parce que tu es beaucoup plus, tu es moins.
Oui, oui. Enfin, on le sait, les assurances, c'est intéressant que tant que tu n'as pas de problème. C'est comme la médecine parallèle, ça ne marche que quand tu n'es pas malade. Mais surtout ne sois pas malade parce que ça ne marche plus. L'assurance c'est pareil, surtout n'aie pas de problème parce que tu n'es plus assuré. Et donc quoi qu'il en soit, on va continuer un petit peu l'agmara. Regardez maintenant ce que dit l'agmara. Les mimras, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, mes amis. Les mimras, parce que bien sûr le Talmud ne comprend pas, qu'est-ce que c'est ces avis qui sont inversés? Rabbi Meir coulant, Rabbi Yehuda sévère. Les mimras, est-ce qu'on va dire que peut-être le fond de la discussion est des savants Rabbi Meir, que Rabbi Meir pense, nitkal laf pocheahu, que celui qui trébuche, on va prendre d'abord le cas de celui qui trébuche, vous allez voir, nitkal laf pocheahu n'est pas considéré comme quelqu'un qui est négligent, point. C'est-à-dire, la Gemara, encore une fois, cherche à comprendre cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Comment se fait-il que les rôles sont inversés, l'un est coulant et l'autre est sévère, alors que généralement c'est le contraire. La Gemara essaye, parce que comme on le sait, c'est typique, on pourrait dire, de l'approche du Talmud, c'est que, d'une certaine manière, le Talmud ne supporte pas les cas généraux. C'est-à-dire que même lorsqu'un enseignement est formulé de manière générale, comme ici, la marchandise s'est cassée, patour ou khayav, c'est-à-dire il est quitte ou il doit payer. Donc c'est vrai que la formulation d'enseignement est dite de manière très générale. Mais le Talmud sait, même quand ce n'est pas précis, que les maîtres d'Israël, lorsqu'ils parlent de loi, ne parlent jamais d'une manière théorique. Ils ont toujours en tête un cas précis, même si ce n'est pas précisé. Pourquoi ? Parce que si c'est de la philosophie, ce n'est plus du Talmud. Le Talmud s'intéresse à des choses claires, concrètes, précises. Donc le Talmud se pose la question, mais comment ces cruches ont été cassées? Moi, j'ai parlé d'un camion qui a freiné, etc. Mais évidemment, ce n'est pas le cas dont on parle ici. Comment ces cruches sont cassées? Alors apparemment, puisque on parle de quelqu'un qui transportait des cruches, apparemment comment elles se sont cassées? Ben, il a trébuché, il a glissé, et il n'a pas vu un petit monticule, et il est tombé, il n'a pas vu qu'il y avait une marche, etc. C'est comme ça qu'il a trébuché, et les cruches qu'il était en train de porter sont tombées. Et donc, quelle serait la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Rabbi Meir penserait que quelqu'un qui transporte un objet et qui trébuche n'est pas considéré comme étant pochéa, comme étant un homme négligent. Et Rabbi Yehuda considérait que oui, qu'un homme qui trébuche est considéré, oui, comme un homme qui est négligent. Non, ça n'a rien à voir, comme on va voir. C'est un problème en tant que tel. Après, selon qu'il est chomer sachar, chomer chinam, alors l'incident sera différente. Mais, et encore, parce que si tu dis que nitkal pochea ou, si tu considères que quelqu'un qui trébuche est considéré comme une personne négligente, dans ce cas-là, même s'il est chomer chinam, il devra payer. Puisqu'un chomer chinam n'est pas quitte en cas de négligence. Quand c'est qu'un chomer chinam est quitte? C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous voulez, et je m'en excuse presque, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je vous ai très très mal expliqué la Gemara jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que je me suis concentré sur le cas uniquement de Shomer Sachar, où lui, il est responsable, même dans un cas de non-négligence. D'accord? Mais on voit ici que la Gemara voudrait dire que celui qui dit qu'il est responsable, c'est même pour le Shomer Chinam. Pourquoi? Parce qu'on considère que le fait de trébucher est une négligence. Et donc, si le fait de trébucher est une négligence, il n'y a plus de différence entre celui qui est payé ou celui qui est bénévole. Puisque ce n'est pas sous prétexte que tu travailles gratuitement que tu as le droit d'être négligent avec mes objets. Ça, c'est les vieux cours qu'on a déjà donnés, où on avait expliqué ce principe fondamental, d'accord? C'est pas parce que tu me rends service que tu as tous les droits. Le fait que tu me rends service ne te disculpe pas d'être un homme responsable. Parce que tu me rends service, c'est vrai, mais je t'ai quand même confié mon bien. Donc, il y a quand même un échange entre nous. Tu me rends service, mais je te fais confiance. Et te faire confiance, ça a une valeur aussi. C'est quand tu as voulu me rendre service et que tu m'as demandé, est-ce que tu es d'accord, que tu sais, regarde, j'ai entendu que tu dois livrer mon voisin, on discutait, et puis il m'a dit, et tu sais quoi, regarde, je vais chez moi maintenant. Et tu n'as pas payé un ouvrier pour ça, je te rends service, je vais le faire. Non, bon. Réaction occidentale stupide et idiote, ah, est-ce qu'il est gentil? Réaction juive authentique, et attends, mais je vais te confier de l'argent. Ça veut dire que je te responsabilise, je te confie de l'argent. Ça veut dire que tu me rends service, d'accord, mais moi aussi je te fais quelque chose. Qu'est-ce que je te fais?
Est-ce qu'on parle des négligences, on parle des négligences?
Eh bien justement, c'est ce que je suis en train de dire.
Non, mais alors je veux dire, à partir du moment où je rends service, je veux dire, parce que je vais chez moi et que tu es vite à côté de chez moi, il ne faut pas me demander plus que ce que le service que je te rends.
Mais c'est
tu me donnes ton argent, ne me le donne pas.
Eh bien c'est justement.
Comme en Israël.
Mais justement.
Mais encore, c'est mieux que tu ne me donnes pas.
C'est exactement ce que je suis en train de dire. Si je te le donne, je te.
Mais c'est vous qui prenez la responsabilité, pas moi.
Tu sautes une étape. Toi, écoute-moi bien, tu me demandes de transporter les choses. Écoute-moi bien. Moi, quand j'accepte, qui donne à qui? C'est sur ça que j'ai dit, d'accord, l'occidental, bête et méchant, qu'est-ce qu'il va dire? Celui qui rend service donne à celui qui confie les cruches. Moi, je dis, c'est faux. Je te donne autant que tu me donnes. Pourquoi je te donne? Parce que le fait que j'accepte, je te fais un cadeau. Quel cadeau je te fais, le fait que j'accepte? Tu me rends service? Non, la confiance. Pour moi, tu es un homme en qui je peux faire confiance.
Alors,
oh. Et bien ça...
Mais, bon, mais tu veux, on ne peut pas lui demander...
Vous ne laissez pas parler. Non, écoutez.
On ne peut pas lui demander de faire confiance, de faire... Et plus attention qu'il fait à ses affaires lui-même, quand même. Il est chômeur chinam, quand même.
Chômeur chinam, il est. Mais est-ce qu'à partir du moment, on parle qu'il y a eu négligence.
Je veux dire, moi, je fais confiance.
On parle qu'il y a eu négligence. On est en train d'expliquer l'avis de Rabbi Meir, qui pense que trébucher s'appelle une négligence. À partir, alors on peut discuter sur ça, mais à partir du moment où Rabbi Meir dit que D'accord ? Donne un exemple simple où on va tous être d'accord. Ok ? J'ai une lettre à apporter à mon voisin. Tu viens, tu dis, tu sais, j'ai entendu que tu dois apporter un courrier urgent à ton voisin.
À mon voisin.
Je vais là-bas, d'accord. Je te l'amène, j'y vais tout de suite, gratos, etc. Rien que prête-moi ton vélo, et j'y vais tout de suite et je te ramène ton vélo. Très bien. Pas de problème, prends mon vélo, moi. Vas-y, rapporte mon vélo, etc. En chemin, d'accord, tu as besoin de t'acheter un paquet de cigarettes. Tu poses le vélo à côté du magasin, tu rentres, j'ai le paquet de cigarettes. Entre-temps, d'accord, un de nos voisins est passé par là et parti avec le vélo. Est-ce que je peux dire à la personne, mais attends, je ne comprends pas. Ah, mais attends, je te rends des services, hein, j'ai quand même le droit d'acheter un paquet de cigarettes, en plus tu ne me payes pas. Bah, mais triple crétin, à partir du moment où tu as mon vélo à moi dans tes mains, ça veut dire quoi? Tu t'arrêtes pour acheter ma cigarette, tu laisses mon vélo dehors sans cadenas? T'es négligent, tu me rembourses mon vélo. Alors non seulement je voulais te rendre service, en plus ça va me coûter 3000 shekels maintenant. Ben oui, t'es un crétin, c'est tout. Alors il va me dire, ben fallait pas me confier ton vélo. Pourquoi ça va pas me confier ton vélo? Mais au contraire, je t'ai fait confiance, la confiance a un prix. Tu n'es pas négligent. C'est pareil pour le cas de trébucher. Rabbi Meir considère que tu n'avais pas à trébucher. À partir du moment où tu prends sur toi de transporter un objet fragile, d'accord, fais attention où tu mets les pieds. Ah, mais je te rends des services, ça vaut 1000 shekels, je n'ai pas demandé un sou. Mais attends, je ne t'ai pas demandé de transporter mes objets. Tu as voulu transporter mes objets gratuitement, c'est ton problème. Si tu m'avais demandé de te payer, peut-être que je t'aurais payé. Mais non, moi je t'ai fait confiance. La confiance, ça a un prix. C'est quoi le prix de la confiance? Sois responsable. Parce que quand tu fais confiance à quelqu'un, c'est toujours le même problème, c'est la vision juive authentique qui est en fait la vision que devrait avoir l'homme, ça n'a rien à voir avec le juif. Mais comme elle est que dans le Talmud, cette vision des choses. Le fait de rendre service ne fait pas de toi un ange qui a tous les droits. Le fait de rendre service te responsabilise. Et si je peux prouver que tu as été négligent, t'es mort, c'est fini. Ah ben la prochaine fois je ne rendrai plus service, mais ne rends pas service, qui t'a demandé de rendre service? D'accord. Je ne t'ai pas demandé de rendre service. Mais moi, je te confie de l'argent. Où est mon argent?
S'ils sont responsables, ils ne sont pas jurés, alors.
Ah non, mais non, mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, tu me dis, ce n'est pas de ma faute. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin, au moins, justement, puisqu'on est dans un problème de confiance, alors on va aller dans la confiance jusqu'au bout. À une époque où on considère qu'un homme qui est prêt à jurer, on peut lui faire confiance, car il ne va quand même pas aller poser sa main sur un Sefer Torah et dire « jure sur la tête du bon Dieu » et se fiche du bon Dieu. Donc on joue la confiance jusqu'au bout, et bon, tu as été prêt à jurer, donc ok. Mais pour Rabbi Yehuda, on n'a même pas besoin d'en aller jusque-là, même si tu jures, je m'en fous. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas jurer? J'ai pas été négligent en trébuchant, j'ai pas vu qu'il y avait une marche et j'ai glissé, j'ai pas vu qu'il y avait une peau de banane et j'ai glissé. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Mais c'est ça une... Non, même un chômer ça, c'est un chômer
qui doit payer.
C'est ce que je dis. Même à Shomer Chinam, Rabbi Yehuda pense qu'il doit payer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle être négligent. Trébucher, ça s'appelle négligent. Comment? Non. Pas plus, comme mon objet n'est plus entre mes mains, je n'ai pas moi le moyen de le surveiller. Et bon, ce sujet-là, Mimou, on le traite déjà depuis au moins 3 ou 4 mois. 3 mois sûr. Ça veut dire, ce sujet-là, c'est qu'on a déjà établi par des dizaines d'autres textes que est responsable de l'objet celui qui l'a dans ses mains. Bekitsu. Celui qui l'utilise. Non, même si tu rends service, tu ne l'utilises pas. Tu rends service. Pourquoi? Parce que la confiance a un prix. Le prix de la confiance a un prix. Je veux dire mieux que ça maintenant. D'accord? Vous savez que pour marier une femme, il faut lui donner quelque chose. D'accord? Une bague, de l'argent, peu importe. Il faut lui transmettre quelque chose qui lui montre qu'elle a un minimum de valeur à tes yeux. Très bien. Ariat mekoudeshetli. Maintenant, on peut donner une valeur qui s'appelle la confiance. Par exemple. Comment? Oui, mais la confiance, ça vaut des millions, la confiance.
Non, mais les côtés, je vais prouta, c'est matériel, c'est pas...
Non, la confiance. Normal. La confiance, c'est une valeur avec laquelle tu peux acheter quelque chose. C'est-à-dire, donnons un exemple simple, que toi, tu as un objet de valeur que tu ne confies jamais à personne, d'accord ? Et tu dis à... Et bien sûr, elle peut refuser, mais si elle accepte, c'est ça le ridou, tu dis à cette femme, d'accord ? Voilà, je te marie, et qu'est-ce que je te donne ? Je te donne qu'à partir du moment où tu rentres dans ma maison, d'accord ? Cet objet-là, je ne le confie plus qu'à toi. C'est tes yeux qui seront ma tranquillité. Elle ne reçoit pas un centime, mais en plus, elle va faire un travail pour son mari, elle est mariée. Pourquoi ? Parce que s'il s'agit véritablement d'une chose qu'on ne confie qu'à des gens hyper responsables, et que le fait que je montre à cette femme que pour moi, c'est elle en qui je fais confiance, la confiance a une valeur. Et donc, si elle a accepté, elle peut être mariée pour ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas uniquement de lui donner un objet matériel, c'est de lui donner de l'importance, que la femme voit qu'à tes yeux, d'abord comme on le sait, c'est le fondement même du Shalom Bayit, une femme, donne-lui tous les cadeaux du monde, mais à chaque fois qu'elle a besoin de sentir qu'elle est importante pour toi, tu ne lui fais pas sentir, elle prend tous tes diamants, elle les met aux toilettes, elle tire la chasse. Ne donne rien à une femme, rien que fais-lui sentir du matin au soir qu'elle est tout pour toi. Tu lui as tout donné. Donc nos maîtres savent de quoi ils parlent. Et donc si tu lui montres que tu as confiance en elle, à ses yeux c'est plus qu'un diamant. Et donc elle peut être mariée pour ça. De là, entre autres, nos maîtres apprennent que quand tu fais confiance à quelqu'un, ça a une valeur. La confiance a une valeur. Donc si la confiance a une valeur, elle responsabilise. C'est comme s'il avait reçu un salaire. C'est la raison pour laquelle un chômer chinam, il n'y a pas de chômer chinam. Quand j'ai toujours été, la seule chose qui est gratuite, c'est la haine. Ça n'existe pas, chômer chinam. Ça veut dire que tu es responsable dès que tu as mon objet entre tes mains. Simplement, ce qui va faire la différence entre un chômer chinam et un chômer sachar, c'est qu'un chômer chinam, comme c'est que de la confiance, ça s'arrête la responsabilité dès que je ne suis pas négligent. Le chômer sachar, même si tu n'es pas négligent, tu es encore responsable. Or ici, comme Rabbi Meir pense, comme Rabbi Yehuda pense, que trébucher, peu importe la raison pour laquelle tu as trébuché, c'est une négligence, même si tu es chômer chinam, tu ne peux pas dire je suis prêt à jurer qu'il y avait une peau de banane sous mes pieds et que donc comme je portais les cruches, je ne pouvais pas la voir, j'étais préoccupé par bien faire attention que la cruche était bien posée sur mon épaule, je n'ai pas vu où j'ai posé mes pieds. Rabbi Yehuda dira d'accord, mais pour moi ça s'appelle une négligence malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu marches dans la rue et qu'il est connu qu'une rue est un lieu où l'on peut trébucher, eh bien, tu devais avoir quatre paires d'yeux, deux sur la cruche et deux sur le sol. Sinon, ne me demande pas de faire ce travail, même gratuitement. Parce que moi, je t'ai fait confiance. Et donc ça, tu dois payer.
Mais il y a une chose qui vous dit chaque fois, moi je suis parti chez René, et vous devrez donner quelque chose à René, alors je viens chez vous, je dis, puisque oui. Je vais chez René, si vous avez quelque chose...
Très bien, le cas contraire.
Mais moi je dis non, mais c'est vous qui m'avez demandé.
Ça ne me dérange pas. Très bien, on va prendre ce cas. Je sais que tu vas ce soir, tu rentres à Guilo, et que tu es le voisin de celui à qui je dois remettre un paquet. Au lieu de prendre quelqu'un en mobilette, ça va me coûter 300 shekels. Je te dis, regarde, quand tu rentres ce soir à la maison, dépose chez ton voisin. D'accord ? Shomer Chinam. Je lui confie un paquet dans lequel il y a une montre Rolex, elle vaut 5000 shekels. Très bien, prenons le cas fort. Ouais. C'est 5000 shekels. Moi, je suis le commerçant, j'ai reçu 5000 shekels et je lui donne la montre. Ça me coûtera quand même moins cher que si je dois encore payer un coursier. Pas de problème, évidemment. Qu'est-ce que ça me coûte ? C'est moi, le bijoutier, qui ai demandé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a deux cas de figure possibles. C'est pour ça que je ne comprends pas la différence. J'ai été braqué à un feu rouge. Et l'autre, il m'a dit, donne-moi la montre ou je te tire dessus. Évidemment, je donne la montre et je ne suis pas responsable. Même si j'étais chômer sachar, dans ce cas-là, d'être agave, parce que je ne suis pas obligé de mourir parce que j'ai reçu un salaire. Mm-hmm. Autre possibilité, d'accord, je garde la voiture, je sors m'acheter un paquet de cigarettes, j'ai pas fermé la voiture à clé, d'accord, et mon cher voisin que l'on connaît bien, il a ouvert la voiture, et je parle des autres, et il a piqué la montre Rolex. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Qui rembourse la montre Rolex? Évidemment, le coursier gratuit. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu as ma montre Rolex dans la voiture, tu sors de ta voiture sans fermer à clé, négligence, tu payes la montre.
Et si quelqu'un... Mais vous n'avez pas dit que c'est une montre qui coûte 5000 shekels?
Non,
ça, vous lui avez donné un paquet.
Non. Non, la question de René n'est pas Stam. La question de René n'est pas Stam, elle est posée dans le Talmud. Le Talmud demande, elle est posée dans le Talmud, non? Quand tu fais un objet dans un coffre fermé,
d'accord, ce qu'il y a dedans,
est-ce que tu es obligé de dire à la personne, attention, ça a telle valeur ou non?
Exactement.
Alors sachez, mes amis, vous serez évidemment, et ça va me faire plaisir, choqué, parce qu'on est en train de se nettoyer de 2000 ans de folie. Eh bien, nos maîtres nous disent, même si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et qu'il ne te l'a pas dit, tu es responsable. Pourquoi? Parce que c'est à la rigueur à toi de poser la question. Non, mais c'est à toi de poser la question. Mais voilà, bravo. Ah, René a compris, bravo. Exactement. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas de prendre.
Ah, oui.
Tu as pris, même si je ne t'ai pas dit ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as dit, oh, si j'avais su qu'il y avait une Rolex, évidemment que j'aurais fermé la voiture à clé. Je pensais qu'il y avait dedans, je ne sais pas moi, un bijou en top.
Vous faites ça très, très... Regardez, je vous donne un scénario. Ouais. Un élève d'un rave très grand.
Oui.
Et le rave, il lui dit, vous allez chez Nathan, posez-lui cette coffre-là.
Oui.
Est-ce que vous pensez que l'élève, il va demander à son rave, ses idoles-là, comme ça, il va dire, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Nathan, ce que je vous adore. Eh bien, je vais vous raconter ce que nos maîtres disent. Il était une fois des hommes sur Terre. Bien sûr, ils ont disparu, ces hommes. Mais il était une fois des hommes sur Terre. On aurait dû les congeler pour les sortir. Aujourd'hui, regardez, ça existait. Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche dans une grotte, on trouve que des hommes préhistoriques. Mais nous, quand on fouille dans nos grottes, on trouve des maîtres, des vrais. Vous savez ce que disent nos maîtres? Ton rat, votre cas dans ma sechet, dans ma mitzia, votre rave, d'accord, vient trouver son élève et lui dit, regarde, tu sais quoi, regarde, j'ai vraiment une urgence, là, je dois m'acquitter d'une dette ou je dois donner la tzedaka, peu importe. Il vient voir un élève qui a des moyens. Tu ne peux pas me prêter 2000 shekels et je te les rends demain. D'accord? Alors, qu'est-ce que lui dit l'élève? Regarde. Maître, excusez-moi, mais on va s'asseoir. On va chercher deux témoins. Vous allez me remplir un papier avec la date, la signature, etc. Attends! Qu'est-ce que disent nos maîtres? Si tu ne le fais pas, toi, l'élève, tu fais un issour Torah. L'ifne hiver, l'eau titène mirchol. Ne mets pas une embûche sur le passage en aveugle. Ah oui, un rave. T'imagines, tu vas dire, le rave Olmadiar.
Normalement, c'est le rave qui doit obliger. C'est pas l'élève qui.
Non, normalement.
Alors, le rave aussi, il n'a pas mes mirchol bénévole.
Mais je suis d'accord. Mais le PLN, Nathan, c'est que comme c'est moi qui donne l'argent, si c'est pas moi qui oblige à signer, la faute est chez moi. Nathan a raison. Pourquoi on dirait pas que c'est la faute chez le RAF qui prend l'argent sans donner un papier? Nos maîtres disent non. C'est celui qui donne qui doit veiller à ce que les choses soient faites en règle.
Moralité, tout
ce qu'on
dit. Jamais rendre de service à personne.
Ah non, voilà, réaction française. Non. Moi, je vais te donner réponse juive. Eretz Israël, c'est-à-dire le juif de la délivrance, pas le juif du galout, qui est plus français que juif. Réponse Eretz israélienne, d'accord? Non. Il faut rendre service. Mais il faut préserver à tout prix le sens du devoir et de la responsabilité. Parce que le monde n'est pas en train de s'écrouler aujourd'hui par faute de gens qui rendent des services, mais par faute de gens responsables. L'Europe aujourd'hui est en train de rendre un très 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 grand service à des centaines de milliers de malheureux. Mais l'Europe est en train de disparaître parce que ce service est un service irresponsable. Il n'est pas géré comme il devrait être géré. Et donc, le problème n'est pas de ne pas rendre service, mais de rendre un service responsable. 2000 ans de christianisme ont empoisonné l'âme humaine de lui faire croire que si elle rend service, elle a tous les droits parce que le bon Dieu accepte tout. Le judaïsme dit depuis des millénaires, tu rends service, oui, mais où est la responsabilité dans le service rendu?
D'accord.
Et donc si il s'avère que sous prétexte que tu rends service, à moyen long terme, les dégâts de ton service vont causer plus de tort que si tu n'avais pas rendu service, à ce moment-là, fais attention. Si, peut-être, je ne sais pas, mais si une civilisation, dans 20 ou 30 ans, doit disparaître parce qu'aujourd'hui, elle rend service à une autre, c'est pas évident que le service rendu aujourd'hui était un service qu'on devait rendre, parce que c'est un service irresponsable. Comprenez? Et donc, c'est toujours ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, Mémoun, mais je m'excuse que ça tombe sur toi, mais le monde occidental nous a appris à penser d'une manière morale irresponsable. Ça, c'est, on pourrait dire, le plus grand dégât du christianisme qui a bousillé en vérité le monde occidental. Si je suis quelqu'un de bien, j'ai tous les droits et toutes les excuses et tous les honneurs. Le judaïsme dit, t'es quelqu'un de bien, d'accord, mais ça n'enlève pas ton sens du devoir, des responsabilités, de voir quelles peuvent être les causes à moyen long terme du bien que tu es en train de faire aujourd'hui. Bekitsour, c'est pas parce que tu fais du bien que ça y est, tu as tous les droits.
Non, ne demande pas tous les droits. Moi, je ne veux pas tous les droits. Mais dans le Talmud lui-même, il parle de la relation entre fils et son père. Il compare ça contre élève et son maître.
Pareil, un fils et un père.
Est-ce que quand mon père va me dire...
Le fils n'a le droit de prêter à son... Je sais très bien que alors là, je veux dire, tous les Français vont crier au scandale. Mais de toute façon, c'est pas mon problème. Un fils n'a le droit de prêter à son père que sans papier, que si dans son fond intérieur, il sait qu'il ne réclamera pas, mais pour ne pas faire honte à son père, il lui dit pas « je te donne ». Mais si le fils a l'intention de récupérer parce qu'il a besoin de cet argent, il n'a pas le droit de donner à son père son papier. Je sais que c'est pas du tout chrétien cette chose-là, mais c'est profondément humain.
La réciprocité.
À combien plus forte raison? Parce que je comprends pas ce que vous dites. À combien plus forte raison que comme le père, d'accord, aura tendance à se gêner de réclamer. Je vais vous raconter une histoire après. Se gêner de réclamer, non parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il a honte de réclamer, d'accord. À plus forte raison qu'il doit faire signer un papier. Pourquoi? Parce que ce qu'on craint, c'est que si finalement il ne réclame pas le père, c'est pas parce que il a dès le départ il voulait donner. Ou parce qu'il n'a pas besoin. Il a besoin, le père, parce qu'il ne travaille plus, il a besoin. Mais il n'ose pas demander. À la rigueur, disent nos maîtres, c'est plus facile pour le fils de demander que pour le père. C'est pourquoi? Mais évidemment, on le sait tous. Parce que le fils, il peut très bien faire valoir son père. Tu sais, papa, moi, je suis en pleine carrière, en pleine vie professionnelle, j'ai besoin de cet argent-là. Excuse-moi, papa, mais toi, bon, tu as la retraite. Prenons le cas épinalien. Mais le père, lui, il se gênera. Depuis quand un père demande à son fils de lui rendre de l'argent? Mais ça ne veut pas dire parce qu'il a honte de demander qu'il n'a pas besoin. Donc ça s'appelle que le fils a de l'argent volé dans les mains. C'est pour ça qu'il faut faire signer un papier qui, dès le départ, met les choses claires, que le fils, après, ne se fait pas d'illusions. Parce que vous savez tous, on est tous des fils. Quand on demande de l'argent à nos parents, ou dans notre fond intérieur, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est qu'ils ne nous le redemandent jamais. Alors, si tu n'as pas le droit de laisser un flou, tu dois demander, papa, c'est un don ou c'est un prêt?
Ça il peut comment il adresse. Si tu dis prête-moi, c'était prêt. Si tu dis donne-moi.
Non, mais il n'ose pas. Mais c'est ça. Tant que le papier n'est pas signé, nos maîtres disent il n'ose pas te dire la vérité. Il va te dire bon, c'est un prêt. Mais
Si je rends service à quelqu'un et que je lui dis là, moi je prends aucune responsabilité.
Oui.
Je lui dis avant de prendre la responsabilité.
Aucun problème. Dans ce cas, tu as raison. C'est marqué aussi. Quelqu'un a le droit de venir chez une personne et lui dire regarde, je vais te rendre service. Ou je suis prêt à transporter ton objet, ou je suis prêt à te laisser ma cour pour y déposer tes objets, mais je te préviens d'avance, d'accord? Aucune responsabilité. Si j'ai envie de sortir et laisser ma porte ouverte, viens pas me dire quoi que ce soit. Dans ce cas-là, s'il y a un papier signé ou des témoins, etc., dans ce cas-là, il n'y a pas de problème.
C'est
évidemment.
Celui qui va donner qui est responsable.
Dans ce cas-là, parce que tu as entendu. Donc tu ne peux pas me dire, je t'ai donné ma confiance. Tu ne peux pas dire ça, puisque je t'ai dit, non, je ne suis pas un homme de confiance. Donc, c'est toi qui as décidé de te suicider.
Donc, je parle de Jomer, Kshaaba noten la yeled, Shneem smechim, Kshayeled noten la aba, Shneem bochim.
Quel? Je comprends pourquoi, effectivement.
Alors, quand les pères ils donnent.
Encore une fois, la difficulté que nous avons, nos amis, et c'est pour ça que ces textes-là, pour moi, je considère que c'est comme je dis souvent, quand on étudie le Talmud, je pense que rien autant que l'étude de la Bible, mais si on le fait une fois par semaine, ne nous met en face de ce qu'est la véritable dimension humaine que comme un texte du Talmud. Pourquoi ces choses nous dérangent et pourquoi elles sont difficiles? Bien, je sais que vous les comprenez aussi bien que moi et vos réactions sont tout simplement pour mieux faire sortir la vérité qui est la vérité de nos maîtres. Mais pourquoi ces textes nous dérangent? Parce que nous, on est issus d'un monde dans lequel ça se dit pas, on n'ose pas, comment tu pourrais, etc. Laisse tomber, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Ce monde de la fausse morale, de la fausse... qui n'a plus de sens du devoir et de rien. Pour les hommes, les vrais, ceux du Talmud, il n'y a pas de contradiction. Je suis ton père, t'es mon fils, mais excuse-moi mon fils, c'est 10 000 euros, j'en ai besoin. J'en ai pas besoin pendant 6 mois, mais dans 6 mois j'en ai besoin. Enfin papa, tu vas pas me réclamer 10 000 euros, mais pourquoi je comprends pas, j'en ai besoin mon fils. Parce que je suis ton père, je dois être con. Je comprends pas. Je dois manger des cacahuètes parce que je suis ton père. Et je vais te retourner là, je vais te retourner les choses sur toi mon fils. Où est le respect du père, mon fils? Tu me prends 10 000 euros, tu sais que j'en ai besoin. Où est le respect? Tu devrais de toi-même venir me dire, papa, prends, je sais que j'en ai besoin.
Sur le fait, j'en
comment
ai besoin. Et
comment
si j'en ai pas besoin.
Comment?
Et s'il n'en avait pas besoin, comment tu n'achètes pas? Parce que
même si j'en ai pas besoin, je suis d'accord avec toi, 100%, tu as raison, je suis d'accord, je corrige, même si j'en ai pas besoin. On a dit que c'était un prêt, c'est un prêt. Maintenant, tu dois revenir le jour en question, dire, papa, voilà les 10 000 euros. Ce jour-là, si je décide de te dire, mon fils, tu sais quoi finalement? Allez, garde-les. C'est mon problème à moi, mais tu n'as pas à décider pour moi. Vous avez vu ce père qui a osé réclamer son argent à son fils, encore un youpin? Oh là là, ils sont dans le fric. Mais je préfère être un youpin avec un nez crochu qu'un crétin de français qui est en train de se faire bouffer du matin au soir.
Mais si vous savez qu'aux États-Unis, les jeunes, on parle des mondes chrétiens, il n'est pas tellement mauvais des fois, les jeunes, j'ai des amis qui habitent aux États-Unis, des parents multimilliardaires, quand les fils ils habitent chez son père à la maison, ils lui payent des loyers chez lui à la maison. Il a fait grandir 18 ans chez lui à la maison, il a tout payé le père.
Ben moi,
il était arrivé à l'âge de 18 ans,
Nathan, moi ça ne me dérange pas, et c'est ce qui fait toute la différence entre la civilisation américaine, d'accord, sa force, sa capacité, c'est justement parce que c'est une civilisation responsable dans ce domaine-là. D'accord, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de service ci, service etc. On oblige les gens à être responsables. Maintenant, évidemment qu'il y a des abus, des trucs, des machins, ouais, mais je préfère un modèle américain qui dit à chacun, si tu n'es pas pour toi, personne ne sera pour toi, qu'un système européen où avant même de naître, tu es déjà sûr que de toute façon, tu es pris en charge jusqu'après ta mort. Et ça crée quoi comme genre de société? Des parasites, des profiteurs, des râleurs, des moins que rien et des chômeurs. Voilà. Et donc, puisque de toute façon, le calcul d'un Français, il est très clair, si je suis au chômage avec 5 enfants, je gagnerai plus que si je travaille. Et c'est vrai. Aujourd'hui, chômeur en France avec 5 enfants, tu reçois plus que si tu vas travailler. Donc, en Amérique, c'est impossible une chose pareille, parce qu'on veut créer des hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à créer des hommes, sur le plan de leur valeur à eux, l'économie, le fric, etc. Mais c'est eux les inventeurs et les créateurs aujourd'hui, c'est pas les Français ou les Belges. Et puis les Allemands non plus. Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et l'intention du Talmud est encore une fois de mettre en évidence que la plus grande valeur qui préserve et qui sauve l'humain et la civilisation, c'est le sens du devoir et des responsabilités. Tu enlèves ça, t'es mort.
Ouais, comment ça va se passer? Est-ce que vous dites, en fin de compte, c'est qu'il ne faut pas s'annuler devant personne sauf le bon Dieu?
Si ça, vous voulez.
Alors, si un élève, c'est un grand rave,
oui,
que le rave, il lui fait un coup d'œil comme ça, il comprend ce qu'il veut, Et vous pensez qu'il y a un parent de dire « Ah, Rav, signez-moi ce c'est papier là quand même. »
Non, et eh bien vous savez ce que...
Mais la relation...
Dans
mais
un, au... dans un autre domaine, nos maîtres racontent une histoire dans Massechet Sanhedrin. Un grand Rav, mais quand nos maîtres disent un grand Rav, tu peux t'imaginer, tu prends le plus grand aujourd'hui, tu multiplies par 1 milliard, d'accord, d'accord. Un grand Rav qui a prêté de l'argent à une personne devant 2 témoins. Un de ces témoins est mort, parce que lui, il est mort. Le problème, c'est que maintenant, comment le Rav va récupérer son argent? Parce qu'avec un témoin, on ne récupère pas de l'argent chez nous. Il faut 2 témoins. Il vient chez son Talmid et il dit, écoute, regarde, il lui raconte l'histoire. Regarde, je suis drôlement dans le pétrin. En plus, j'ai prêté de l'argent dont la yeshiva a besoin. C'est l'étude de 300 élèves qui est en jeu. D'accord? Non, ça peut être sincère. Non, je ne parle pas d'une blague. Ça peut être sincère. Le cas peut vraiment se poser. Tu sais quoi, regarde? Je te demande rien que de venir avec mon témoin, comme ça quand l'autre va voir que j'ai... Je te demande rien de dire, parce que tu n'as rien vu, tu ne sais pas que je lui ai prêté de l'argent. Rien que tu viens au tribunal avec moi, comme ça quand l'autre va voir que je viens avec 2 témoins,
il pourra
rien faire, et parce qu'il va croire que tu vas témoigner contre lui. Rien que tu es là. Le Talmud dit, d'accord, tu dis à ton Rav, chakran, dégage de ma maison. Tu lui dis... Menteur, tu n'es qu'un sale menteur, pars de chez moi. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que il était une fois des hommes où il n'y avait pas de gourou, où le Rav c'était pas un dieu, où le Rav c'était un humain, et quand il fait une faute, on lui envoie en pleine figure.
Alors pourquoi?
Chez nous, il n'y a pas, ça n'existe pas chez nous.
C'est grand Rav Meir qu'il a accroché un homme contre sa femme. Gros gars, si c'était pas un péchard. Pour voir si elle est comme ça et comme ça.
Je parlais du cas clair, parce que je ne sais pas de quel cas vous parlez. On continue, mes amis. Ve'atania, regardez. Donc, regardez. Rabbi Meir pense, Nidkal lav pocheahu. Rabbi Meir pense que celui qui trébuche n'est donc pas considéré comme un fauteur. Et donc, c'est pour ça que tout ce qu'on a dit, on l'a dit après Rabbi Yehuda, bien sûr. Ve'atania, pourtant, on a un enseignement qui dit... Nijbera Kado, que celui qui transporte une cruche et que la cruche se casse, parce que bien sûr il a trébuché, Velo Silko, et que lui non seulement il a trébuché le courtier a trébuché, mais qu'une fois que la cruche était cassée en 15 morceaux, d'accord, encore, bon bah, il a continué son chemin, il n'a même pas pris la peine de... Le ramasser. De toute façon, c'est cassé, qu'est-ce que je vais en faire? Non, un homme normal, il récupère les morceaux, ne serait-ce que parce que c'est dangereux, quelqu'un d'autre peut se faire mal, ou glisser sur l'eau, puisque c'est humide, etc. Non, et tout, il a continué son chemin. Nafla Gamlo, ou bien un autre cas, il traverse un endroit avec un animal, l'animal tombe, c'est-à-dire l'animal meurt, peu importe. Et puis bon, il lui s'embête pas à tirer l'animal juste dans une décharge, le mettre au bébé. D'accord. Il continue son chemin, il laisse l'animal mort en plein milieu, c'est un autre cas. Vélo et Emida, et donc il ne l'a pas relevé.
C'est la voiture qui est tombée en panne badère.
Ouais, la voiture qui est en panne badère et qu'il la laisse et qu'il s'en va, etc. Et donc, bien sûr, on parle d'un cas où maintenant, ça va causer un dégât à ceux qui vont venir. Parce qu'ils vont se faire mal sur les débris, ils vont trébucher sur l'animal qui est en plein milieu de la route. Tu imagines, à 140 à l'heure, tout d'un coup, tu vois une voiture arrêtée en pleine... l'autre, il est parti, il a laissé sa voiture, ou peu importe. Et paf, ça va faire des accidents en série.
C'est Baruch HaShotaravim.
Comment?
Baruch HaShotaravim.
Alors, justement. Alors, Rabbi Meir dit, Mehayev. Rabbi Meir dit... que celui qui a laissé ses débris sur la route, d'accord, est responsable de tout ce qui va suivre. Laissez-moi continuer. Rabbi Meir Mechayev Bezekan, Vechachamim Omrim, mais les Chachamim y disent, ça c'est aussi un concept qu'on a rarement vu, qui va nous demander un long moment pour l'expliquer, plus aujourd'hui. Ils disent, Chachamim Patur Medine Adam, c'est un concept qui est typiquement juif, dans le Talmud. C'est-à-dire qu'un tribunal humain ne peut pas l'obliger à payer, mais Hayav Bideshaim, mais s'il veut s'acquitter par rapport à Hachem, il a intérêt à payer parce que les hommes le lâcheront peut-être, mais Hachem, lui, ne le lâchera pas. Alors, il y a un concept dans le Talmud qui s'appelle « L'homme ne peut pas te condamner », ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas coupable. Mais celui qui exercera la loi sur toi, c'est lui, pas nous. Ça, c'est un sujet en soi qu'on va, Bezrat Hashem, commencer à étudier. Mais comment ?
Pas
tout bidine Adam, vechayav bidine Shamaï. Non, c'est encore autre chose, ça, c'est dans les Yisourim. Là, on parle dans Mammon.
C'est-à-dire que la loi civile est différente de la loi religieuse.
Alors justement. Mais je ne veux pas ouvrir, je veux pas ouvrir ce sujet maintenant parce que ce sera le prochain cours. Mais il y a effectivement, parce que je voudrais d'abord revenir un petit peu en arrière sur ce qui nous concerne. Il y a effectivement différents avis, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sur qu'est-ce que signifie Patour Bide Adam, Réav Bide Shemé. Est-ce que ça signifie, comme Olivier vient de le suggérer, que d'après le droit civique, civil, tu n'as pas fait quelque chose qui justifie une condamnation, mais sur le plan, on pourrait dire, moral et spirituel, tu es, oui, responsable, d'accord ? Ce qui veut dire que ta responsabilité est dans le monde du moral, non dans le monde du social, ce qui est tout à fait concevable, d'accord ? On le dit souvent en Israël aussi. C'est pas parce que quelqu'un sort acquitté d'un tribunal que c'est pas un cochon pour autant, d'accord ? Parce que le tribunal juge selon des critères qui ne sont pas forcément, qui ne tiennent pas forcément compte de tous les aspects moraux et encore moins spirituels. On juge après des faits concrets, cartésiens, etc. Donc dire, vous voyez, je suis innocent parce que je suis sorti acquitté, tout le monde sait depuis bien longtemps que c'est pas vrai. Tu peux être une crapule bien que tu aies été acquitté. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de preuves selon le droit civique.
La différence entre innocent et innocenté.
Innocent et innocenté, bravo. Donc, il y a des avis qui disent comme ça, que patour bidé Adam signifie que le droit humain n'a pas, selon ses critères à lui, suffisamment d'éléments pour te condamner, mais sache que sur le plan moral, on sait et tu sais très bien que tu t'es mal comporté. Hachem, qui lui est le seul qui peut juger sur le plan moral, d'accord, te jugera. Quel est l'intérêt de cette école-là? C'est une école de pensée. Parce que ça protège le tribunal juif de rentrer, de devenir un tribunal de conscience. Ça veut dire que ça protège le juif du fanatisme et finalement de l'islamisme ou du nazisme ou du bolchevisme, qui est la même chose. Ça veut dire qu'on te juge pour tes idées, pour ta conscience, pour ton sens moral ou ton sens spirituel. Chez nous, on ne peut condamner que sur des faits précis. Tu as fait, tu n'as pas fait. Maintenant, même si je sais que tu n'as pas fait selon mon critère, mais bien que ton intention est pourrie, que tu es une pourriture, il y a un bon Dieu. D'accord ? Ça veut dire que lui aussi, il a son tribunal. C'est une manière de voir. Ce qui est, on pourrait dire, la plus simple pour expliquer. Il y a une autre manière, et qui est extrêmement intéressante, une autre école. Je ne vous rapporte que les deux grandes écoles, qui dit non. En vérité, patour bide Adam, vechayav bide Shamayim, ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsable d'après les hommes, mais Hachem te jugera parce que ta responsabilité, elle est morale ou spirituelle. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en vérité, que, d'une certaine manière, responsable bidé shamayim signifie que, justement, c'est pire encore. Parce que tu ne vas pas t'en tirer uniquement avec un... Ça, c'est une école qui prend la chose à l'extrême opposé de ce qu'on vient de dire. C'est pas que c'est moins grave. C'est d'une certaine manière tellement plus grave... que tu n'as pas ton statut uniquement avec un paiement ou avec ci, avec ça, qui veut dire, on pourrait dire une punition très technique. Non. On va laisser Hachem s'occuper de toi et lui certainement qui s'en sortira pas avec toi uniquement avec un problème de paye ou paye pas, il va te prendre en main. Jusqu'à ce que tu comprennes la gravité de ce que tu as fait.
Et comment il peut s'acquitter de ça, de Bide Shamaïm?
Comment
il peut s'en acquitter?
Après ça, maintenant.
De son vivant?
Non, de son vivant, il va avoir des épreuves.
Je ne veux pas, je vais rendre l'argent, ou je vais dédommager le nézek qu'il a eu.
Oui.
Automatiquement, il ne sera plus khayam.
Mais pas, alors justement, pas nécessairement. Parce que si c'est khayam Bide Adam, monsieur, vous devez rembourser 2000 euros. Tu as donné 2000 euros. Fini.
Non.
Si c'est Rabide Shamaïm 2000 euros, même si tu vas les rembourser, c'est pas évident que c'est fini là-haut. Pourquoi? Parce que on va aussi te juger par rapport aux dégâts moraux que tu as fait, aux préjudices psychologiques, à l'intention mauvaise que tu avais, ce qu'un tribunal humain ne peut absolument pas juger. Donc, un tribunal humain, de quel droit il va juger les intentions et la conscience et les dégâts psychologiques? Lui, c'est mécanique. Mais quand on dit réhabilité Shamaïm, ça veut dire qu'on fait prendre la conscience que tu sais. D'accord? Voilà. Et je vais vous apporter une preuve de cette école.
Mais on avait les
Une preuve de cette école, c'est que justement, on dit que tout celui qui a pu être condamné par un tribunal humain, il quitte ce monde, il est acquitté complètement, et donc ça veut dire qu'il a eu son tikkun sur terre et il n'y a aucune tâche par rapport à la suite de son parcours nishmatique et autre. Mais si rien, s'il a payé selon la loi d'Israël, il n'y a plus de problème.
Moi, Chazara Betchouva ?
Oui, c'est un vrai tikkun. C'est encore mieux, parce que Chazara Betchouva, c'est seulement Chazara la Slicha, ma Balmiomesh et Tikkan Tagam. Mais là, il y a un tikkun.
Il n'y a pas un tikkun.
Tandis que si tu es Hayav Bide Shamaim, d'accord, ça veut dire que ça risque de continuer là-haut encore. Parce que le Cheshbon, il est ouvert pour peut-être très longtemps, et Gilgulim et machin, etc. Donc ça veut dire que des fois, on a plus intérêt à Hayav Bide Adam que Hayav Bide Shamaim.
C'est ce que Dieu dit à ses enfants. Élie, c'est ce qu'il a dit à ses enfants dans le prophète Élie. Il a dit, celui qui faut envers les hommes, Dieu le pardonnera, mais celui qui faut envers Dieu, qui le pardonnera?
Oui, il y a cet aspect aussi. Donc en tous les cas, mais quand on arrivera au sujet, surtout dans le contexte du Talmud, on verra effectivement comment ces deux écoles fonctionnent. Mais par contre, ce qui m'intéresse moi, mais vraiment en une, parce que bon, j'ai le cours des dames, je veux arrêter, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce qu'on veut rapporter de Rabbi Meir. On veut rapporter de Rabbi Meir un enseignement qui semble dire que celui qui trébuche est responsable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit Rabbi Meir? J'ai trébuché avec une cruche, je suis parti, j'ai laissé les débris, d'accord? Tout ce qui va se passer, je suis responsable. Le Talmud voudrait dire que ça, ce n'est possible, cette thèse-là, que si tu considères que trébucher est en soi déjà une faute. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, si on considère que c'est un cas de force majeure de trébucher? D'accord? Est-ce que si il ne ramasse pas les débris, il est condamnable d'après un homme? Peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, mais simplement on va ouvrir le sujet parce que là on ouvre véritablement une nouvelle porte et on ne peut pas le traiter aujourd'hui. Il y a un texte qui dit la chose suivante. D'accord? Si un objet à moi, pour une raison qui est complètement en dehors de ma volonté, d'accord, se retrouve dans le domaine public, c'est pas moi qui l'y ai amené, d'accord, et par exemple, je sais pas moi, un chien est rentré dans ma cour, il a pris des pierres ou des morceaux de bois qui étaient dans ma cour, des morceaux de bois, des bûches dont je me sers pour le feu, il a pris des bûches, d'accord, ou un enfant qu'on ne peut pas responsabiliser. Ils sont rentrés, ils ont joué avec des bûches et puis ils les ont laissés traîner dans la rue. D'accord. Et puis, quelqu'un est venu et tombé. Et il y a des voisins qui ont vu tout le film. Les bûches sont sorties de ma cour, machin, etc. Le chien, bien sûr, n'est pas condamnable. Mais l'autre, maintenant, il a un sacré dégât. Il a un mois d'hôpital, il va falloir payer des factures, les assurances, machin. Qui paye? C'est un problème de droit civique classique aujourd'hui aussi. Qui paye? Alors, on dit la chose suivante. Que si je ne suis pas responsable du fait que mes objets se trouvent dans la rue, donc dans un endroit dangereux, et que j'ai rendu efker les objets, c'est-à-dire qu'après que j'ai su que les objets étaient là-bas, je n'ai manifesté aucune envie, aucun désir de les récupérer en tant que propriétaire, je dis bon, mais puisqu'ils sont là-bas maintenant qu'ils y restent, on ne peut pas me condamner d'après un tribunal humain. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tes objets font là-bas? Pas moi qui les ai amenés. Maintenant, c'est ton objet, c'est plus le mien. Que n'importe qui vient, il peut le prendre.
Il n'a pas le droit de se désister. Pourquoi?
Alors, justement.
Se désister.
J'ai le. Alors, justement.
Ramène chez toi des balayes à la voie publique. Et après,
je sais que c'est très compliqué. Je dis d'avant, je ne peux même pas commencer ce cours. C'est le cours de la semaine prochaine. Il y a une loi qui dit que tu as le droit de te désister d'un objet qui est à toi, qui se trouve dans un endroit dangereux. Tu n'as pas envie, toi, parce que tu n'es pas responsable du fait que cet objet se trouve là-bas. Tu n'as pas envie, toi, de continuer à te sentir responsable et donc propriétaire. Et donc, à ce moment-là, tu fais ce qu'on appelle efker. Efker, ça veut dire que c'est une formule juridique qui est valable chez nous. D'accord ? tu fais savoir qu'à partir de ce moment-là, maintenant que tu viens d'apprendre la chose, tu fais savoir que cet objet n'est plus considéré comme étant le tien, tu t'en décharges sur le plan de ta propriété. Je sais que c'est très choquant, mais pour l'instant, je suis obligé de vous dire formellement de quoi on parle. Tu fais savoir que tu n'es plus le propriétaire, ce qui veut dire que n'importe qui peut venir prendre, le ramasser, tu peux dire hey, « je regrette, redonne-le-moi ». Non, c'est plus à toi. Donc, juridiquement parlant, tu n'es plus le propriétaire. À ce moment-là, si à partir du moment où tu as fait savoir que tu n'es plus le propriétaire, il y a eu un dégât, ça n'engage pas, civiquement parlant, ta responsabilité. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas responsable du fait que l'objet est là-bas. Tu n'es plus responsable parce que tu n'es pas son propriétaire au moment où le dégât a lieu. Donc, en vertu de quoi on va te condamner ? En vertu du fait que c'est quand même pas bien. Pas bien, Hayavi de Shamaïm. Le pas bien, c'est Hayavi de Shamaïm.
On va voir ces juifs-là, si on trouve sa montre qui vaut 100 000 dollars à euros.
Mais il va,
il va dire « Anima Sherzef Ker ».
Non, il faut qu'il le manifeste avant, c'est pas après. On parle d'un cas. Dans ce cas-là, effectivement, il sera considéré comme responsable, effectivement. On parle ici pour bien comprendre de quoi on parle, ce qui ne n'allège pas forcément la difficulté du texte. Mais on parle de quelqu'un qui, après qu'il a entendu que son objet se trouve dans un endroit qui met d'autres en danger, à ce moment-là, au moment même où il l'entend, fait savoir comme quoi il ne se considère plus comme responsable, comme propriétaire. Après arrive le dégât, il n'est pas condamnable. Oui. J'ai pas dit que j'ai compris. C'est l'étude la semaine prochaine.
Je prends un exemple.
Oui.
Vous me dites par exemple, je vais descendre à Strasbourg, vous me dites, René, j'ai un vase, vous allez me donner à mon frère.
Oui.
Je trébuche, je tombe avec le vase et je me blesse le doigt. J'ai pour 2 semaines de congé, qui va les payer ?
Vous. Pas moi.
C'est vous, René. C'est par
Béouda. Non, ça n'a plus rien. Ça, c'est un cas très intéressant, mais qui n'a encore rien à voir avec la discussion, etc. Mais mes amis, ça vous arrive pas. Ça vous arrive pas. Quelqu'un.
C'est pas comme le rap.
Quelqu'un vient de France. Vous lui demandez de vous ramener de l'argent.
Ouais.
D'accord. Ok, il se le fait piquer dans l'avion. Oh. Peu importe. Comment l'argent disparaît ?
Il se fait arrêter à la
douane. On est sûr et certain où il se fait arrêter à la douane. Comment vous avez plus de 7000 euros sur vous ? Peu importe. Ok. Qui est responsable ? Qui est responsable ?
La douane.
Comment ? La douane. Qui est responsable ?
Mais pourquoi le premier cas, c'est pas le cas du bord ?
Comment ?
Donc c'est moi le responsable.
Non, le cas du bord, c'est quand toi, tu creuses, quand t'as pas creusé.
Donc c'est toujours moi le responsable dans cette histoire.
Alors on verra tous ces cas-là.
Alors, c'est celui qui gère.